L'actualité. Voilà. Et Jean-Marie, je sais
alors,
pas où
Jean-Marie,
il est.
Bon, faudra il... peut-être aller le chercher tout à l'heure, mais.
Ouais, il va prendre un café. Je vais chercher, il est au café.
Parce qu'il trouve que. C'est vrai, on est assez nombreux, mais il y aura bien quand même une place pour.
Il y a toujours un micro
pour ses poèmes. Voilà.
Bon, honneur aux invités.
Alors, oui, honneur aux invités. Donc. Bon, il ne veut pas venir. Ah, tu le feras venir, hein. Mais non. Ah bon?
Donc vous avez commencé à lire cet ouvrage, je crois.
Voilà, je ne l'ai pas encore tout terminé.
Oui.
Mais c'est un livre qui est très. C'est un livre, il faut laisser les paroles rentrer doucement. Il ne faut pas forcer la lecture.
Certainement.
Parce que c'est. En fait, c'est très émouvant.
C'est très émouvant. Maman a écrit cet ouvrage avec tout son cœur, toute son âme. C'était une femme d'une grande beauté. Malheureusement, elle est partie cette année. Elle est décédée cette année en janvier. Mais jusque-là, elle avait gardé toute sa tête. Et encore les derniers moments, elle pensait à mon père. Donc elle est partie, elle avait 97 ans. Et donc, elle avait perdu son mari à 25 ans. Elle pensait toujours à lui. Toujours, il lui tenait la main. Oui. Comme a dit Serge Klarsfeld, qui a écrit la préface.
Oui, c'est Serge Klarsfeld qui a écrit la préface, qui est d'ailleurs...
Serge Klarsfeld, que je ne connaissais pas. Et c'est moi qui suis allée le rencontrer quand maman avait juste le manuscrit. Et donc, il a tout de suite accepté de faire la préface. Parce que cet ouvrage, nous l'avons fait à compte... Enfin, maman, elle a fait, mais comme elle avait quand même déjà 88
alors,
ans...
Elle a attendu quand même un âge avancé
oui.
pour mettre sur papier des souvenirs, finalement, qui... Des souvenirs qu'elle avait en elle.
Elle avait commencé beaucoup plus tôt à l'écrire. Elle a mis un temps fou. Elle a peut-être mis 20 ans à écrire cet ouvrage. Mais elle ne pensait pas en faire un livre. Et c'est quelqu'un qui était imprimeur, qui a connu l'histoire et qui m'a dit, tu sais, on peut en faire un livre. Mais moi, je ne pensais pas. Je pensais que c'était juste les histoires de maman. Alors, du coup, on a fait le livre, mais on l'a fait à compte d'auteur. Donc, il n'y avait personne pour le diffuser.
Oui.
Mais malgré tout, on en a fait 1000 et il n'y en a presque plus.
Il n'y en a presque plus.
Parce qu'on les a déposés dans des librairies et les gens ont tous lu. C'est pas, ça a été du bouche à oreille et tout le monde a été émerveillé par cet ouvrage, ouais. La sensibilité qu'il y a
oui,
dans l'ouvrage.
Voilà. Parce que quand on lit dans les livres d'histoire la Seconde Guerre mondiale, qu'on nous parle des Juifs qui ont été déportés, ça reste abstrait. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est raconté à partir de quelqu'un qui pourrait être Pierre, Paul, Jacques, sauf que il se trouve qu'elle est juive.
Ben oui, sans ça, l'histoire serait pareille.
Et qui raconte par le détail dans le quotidien.
C'est
comment
ça
se passe dans le quotidien.
Exactement, dans le quotidien, et c'est une femme. Parce qu'il y a eu beaucoup d'hommes qui ont écrit leurs histoires, mais des histoires de femmes, je ne sais pas si vous avez lu des passages qui sont uniquement pour une femme, puisqu'elle a été obligée de faire passer
oui.
un enfant,
oui.
parce qu'elle a eu peur. Et toute sa vie, elle l'a regretté. Voilà. Et cet ouvrage est écrit sans haine, je ne sais pas si vous avez remarqué.
Oui, elle ne laisse pas percer... elle doit se remettre dans l'ambiance où elle était à l'époque. Elle n'a pas le. C'est un peu comme si elle revivait les moments qu'elle avait vécu sans mettre. Il n'y a pas de point de vue revanchard ni historique. Elle se base sur ce qu'elle a vraiment vécu.
Exactement. Voilà. Pas du tout, comme vous dites, pas du tout revanchard. Simplement ce qu'elle ressentait elle-même, voilà. Et d'ailleurs, elle a toujours aimé la vie et après, elle avait toujours envie de vivre, même à 97 ans. C'était une femme qui aimait être entourée de ses petits-enfants, de ses enfants. Elle a rebondi dans la vie sans oublier son mari.
Elle ne s'est jamais remariée ?
Non, elle était très mignonne, très très mignonne. Je ne sais pas si vous avez vu les photos.
Oui.
Elle aurait eu l'occasion de se remarier, mais elle ne l'a pas fait parce que... Elle voulait pas quitter le nom de mon père. Hein. Elle voulait garder ce nom-là. Elle s'appelait Madame Lang, mon papa André Lang. Et premièrement. Et deuxièmement, elle vivait avec sa belle-mère. Ah, alors voilà. C'est aussi une histoire de... sa vie a été assez dure parce que la belle-mère surveillait sur elle et par exemple disait, quand elle allait sortir, il fallait qu'elle dise qu'elle allait chez sa sœur plutôt que de rencontrer quelqu'un, même des habits, parce qu'elle disait, la belle-mère lui disait, Jacqueline, n'oubliez pas que vous avez été mariée.
Ah, oui, d'accord. Et vous, vous étiez toute petite, vous
aviez... Je suis née en 39, alors j'étais vraiment très petite. J'étais élevée dans cette ambiance. Je ne me suis jamais rendu compte parce que j'ai quand même eu une enfance très heureuse, mais je devais ressentir sa douleur, je pense. Je devais ressentir son angoisse plutôt. Oui, elle me cachait tout, on me cachait tout. J'avais une ambiance plus qu'heureuse parce qu'on voulait tout, ma sœur et moi, nous épargner.
Voilà. Et durant votre enfance, après la guerre, elle vous a reparlé de...
Ah non, on parlait jamais. De rien. On parlait de rien. Et il ne fallait pas dire, surtout, donc on était juifs, mais sans être religieux. Hein.
Oui.
Mais nous sommes d'une famille française, née en France, en Lorraine. Mais il ne fallait pas dire qu'on était religieux. Moi, mes amis de classe me demandaient un jour, mais... Qu'est-ce que tu es comme religion? Je devais dire, je ne suis rien. Et j'ai une amie qui m'a dit un jour, mais tu devrais me le... J'avais 15 ans. Je me souviens encore au cours de dessin. Et alors elle me dit, mais écoute, à moi, tu devrais me le dire. Écoute, je m'appelle Daniel Cohen. Alors je dis, bon, alors je te le dis, mais tu le diras à personne surtout. Hein. Ben oui, je suis juive. Et même maman a gardé cette angoisse aussi toute sa vie. Elle ne pouvait pas dire, elle n'arrivait pas à dire. C'était comme une douleur qui lui restait. Elle avait toujours peur que quelqu'un lui fasse du mal ou nous en veuille.
Et si ça, on peut pas le comprendre si on n'a pas accès à l'histoire des personnes qui l'ont été pendant la guerre. Et pour le comprendre, c'est vrai que ce livre donne beaucoup de...
Il aide. Et moi aussi, il m'a aidé énormément parce que justement, je vous dis, je ne pouvais pas en parler. Hein, même j'étais assez bloquée dans beaucoup de domaines. Je ne pouvais pas. Et comme elle a écrit cet ouvrage, eh ben, je dois dire que en m'appuyant dessus, j'arrive à en parler. Au contraire, je suis enfin entre parenthèses contente, mais de faire honneur à maman de pouvoir parler de cette histoire. Je pense. Parce que c'est important pour les nouvelles générations de connaître tout ce qui s'est passé afin que ça ne recommence pas.
Voilà, oui. Et...
Quand le matin, mon fils, mon gars, je te vois haut comme trois pommes, me tendre les bras, mon bonhomme, en riant pour rien aux éclats. En te voyant, mon gars, mon fils, je revois les enfants d'Auschwitz. Toi, mon garçon, sang de mon sang, chaque instant, chaque heure qui sonne, tu en uses mieux que personne, en mille et un jeux innocents. Lorsque tu joues, mon gars, mon fils, je repense aux enfants d'Auschwitz. Pierre au gourmand, cuillère en main, croisant un pot de confiture, tête à tête avec l'aventure, tu n'attends jamais à demain. Quand tu manges, mon gars, mon fils, je pleure les enfants d'Auschwitz. Capitaine, si ton bateau fait naufrage dans la baignoire, ça n'est jamais la mer à boire, je mets toujours le nez dans l'eau. En te lavant, mon gars, mon fils, je lave les enfants d'Auschwitz. Marchand de sable, quand tu dors, le rêve est au bout de ton pouce. La grande ours sur ta frimousse tisse pour toi la toison d'or. En te berçant, mon gars, mon fils, je berce les enfants d'Auschwitz. 1 300 000 morts, 160 sur le qui-vive. J'ai parfois le cœur qui s'enjuive quand j'entends ce confiteor. En toi mon gars, par toi mon fils, j'embrasse les enfants d'Auschwitz.
Une chanson de René-Louis Laforgue, interprétée ici par Marc Augeret. Mon père me disait souvent « mon gars, mon fils », je le dis moi-même à mon fils.
Voilà, alors Claudine Lang voulait continuer à parler donc du livre de sa maman, Jacqueline Lang, et ajouter un souvenir d'enfance quand vous étiez réfugié en Dordogne.
Voilà, c'est ça, nous sommes arrivés en Dordogne ensuite, c'est-à-dire que mon père a donc été arrêté à Paris, dans le 13e. En principe, on pense qu'il a été dénoncé peut-être par la concierge. Il a été à la caserne des Tourelles, il a été à Drancy où il y est resté 18 mois. Et ensuite, donc, il a dû partir. Bon. Et nous, nous avons fait un chemin, nous avons essayé d'aller jusqu'à Limoges, passer la ligne de démarcation. Et ensuite, nous avons atterri en Dordogne où. Mon père ayant un petit peu d'argent, nous avions trouvé une petite maison, mais une maison très très petite, et sans eau, sans électricité, sans rien. Et nous avons été donc dans ce village. À un moment, nous étions dans 2 pièces 14. Ma mère devait tous les jours aller chercher l'eau avec 2 gros seaux. Et je me souviens, pour la toilette, c'était pas facile parce que on l'avait d'abord une fois par semaine. On lavait d'abord les enfants et puis ensuite c'était maman qui se lavait et ensuite c'était la grand-mère, tout dans la même eau. Ah, voilà. Au milieu de la pièce. Et alors c'est surtout parce que ce village, cet endroit est une merveille, la Dordogne, un petit village d'Audrix. Et nous sommes restés amis avec tous les gens de ce village. Et je vais y aller le mois prochain.
D'accord. Donc, je lis juste un tout petit extrait, et puis vous me direz aussi où on peut trouver le livre.
Voilà.
Alors, chapitre 2. Donc, le livre s'appelle « La rose et la bleue ». C'est en hommage à ses deux filles. La rose, c'était votre sœur.
Non, c'est moi, la
c'est
rose.
Vous. C'est vous, la rose.
C'est moi, la rose.
Ah, d'accord. Voilà. Et la bleue, c'est la...
Donc, ma sœur.
Voilà, d'accord. Allez. Vous êtes la cadette ou la...
La plus jeune, oui.
La plus jeune.
En fait, de 15 mois, alors, vous savez, c'était...
D'accord. Alors, jardin public interdit même le dimanche. Le jardin des gobelins ne pouvait plus m'offrir ses allées, son tas de sable, ses beaux arbres, sa verdure, ses fontaines, ses tonnelles et ses chaises pour m'asseoir auprès de mes amis, regarder jouer mes enfants avec d'autres enfants. Je ne pouvais plus aller promener mes filles dans un jardin public. Où en suis-je encore? Tout se brouille encore une fois dans ma tête. Mais aussitôt que je glisse cette encre sur ce papier, ce jet noir sur du blanc, c'est comme au théâtre, lorsque les coups ont frappé et que le rideau se lève, tout se remet à vibrer dans ma tête. Mes souvenirs se mettent en marche et en avant le recul du temps. Noël 1942. La glace a remplacé l'été écrasant. Ni père, ni grand-père à la maison. Tout de même, jouets, poupées, petits jeux, cheminées garnies. Il fallait chasser le lugubre. Ne pas oublier mes petites têtes près de moi, ma rose et ma bleue. Avaient bien droit, elles aussi, à leur Père Noël. La routine, l'attente, l'espoir de retrouver une année 1943 meilleure. Janvier plus que glacial, queue interminable, promenade monotone et mélancolique. Du dimanche, incertitude du lendemain. Seule restait la merveilleuse motivation, l'attente de nouvelles de nos deux internés de Drancy. Par les cartes censurées, couleur beige, avec le timbre représentant Pétain. La carte, lisse et glacée, me réchauffait, rien qu'au toucher, même avant de la lire, comme quand on caresse un objet qui nous vient de loin et qui vous tient au cœur. C'était incroyable le nombre de choses que l'on pouvait se dire sur cette si petite surface. la moitié d'une carte postale, d'une écriture infiniment petite et pour cause. David et André étaient tout de même très heureux de savoir que les amis s'intéressaient à eux. Et il y en avait beaucoup. Voilà. Mais c'est...
Ce monde borné de quel entre-deux-guerres, où ceux qui font les lois les troussaient par derrière, nous n'avions que 5 ans du pain sec au dessert, pour 5 lettres de trop ou un P de travers. On nous disait, tu vois, c'est la croix que grand-père a gagné au chemin des dames et nos grands frères, abandonnant le bleu pour un kaki douteux, cocufier Madelon dans les bras de Marlène. Une fois l'an, nous allions voir entre père et mère la victoire en chantant nous ouvrir la barrière.